un regard sans haine.
Bientôt, vous goûterez l'amertume de ma haine avec la perte d'un être qui vous est cher.
Otaku Otake, la chronique manga sur Divergence FM.
En fait, otaku, c'est surtout pour désigner celui qui ne se consacre qu'à sa passion, voire un maniaque.
Rock, t'as pas intérêt à me briser les ovaires avec tes conneries de col blanc, d'accord? Tu vois pas que j'ai besoin de me concentrer, là?
Bonjour à toutes et toutes et bienvenue dans la chronique de l'Otaku Otake. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga et de son adaptation en série d'animation. Ce manga, c'est Made in Abyss. Écrit et dessiné par Akihito Tsukoshi, il est publié en France par Ototo depuis mai 2018 et compte actuellement 8 tomes. Une adaptation en série d'animation réalisée par le studio Kinema Citrus, comptant 13 épisodes retraçant les 3 premiers tomes, est disponible sur la plateforme de streaming manga Wakanim. Une deuxième saison est annoncée pour 2022. Il existe également 2 longs métrages d'animation récapitulatifs de la première saison, ainsi qu'un troisième, sorti en France en août 2020, retraçant les volumes 4 et 5 du manga. Je vais surtout vous parler de la série d'animation, car c'est par ce biais que j'ai découvert l'œuvre. Alors, de quoi parle ce manga? Eh bien, le récit nous emmène dans un monde fictif, dans la ville de Hors, construite sur une île et autour d'une étrange et immense gouffre, communément appelée l'Abysse. L'Abysse recèle des artefacts et des vestiges d'une ancienne civilisation disparue, ainsi qu'un écosystème étrange et terrifiant. Ce lieu est très prisé des caverniers, qui entreprennent de dangereuses expéditions à travers les différents paliers de l'immense gouffre pour récupérer le plus d'objets possible et les vendre à l'étranger. Cependant, plus une personne descend dans l'Abysse, plus la malédiction de celui-ci pèse sur sa santé, des symptômes de plus en plus graves se présentant lors de la remontée des différents niveaux. Peu d'aventuriers sont descendus dans les zones les plus basses et sont remontés pour décrire leurs expériences. Dans ce contexte, nous suivons une orpheline énergique nommée Riko, dont la mère Lisa, portée disparue dans l'Abysse, était une cavernière légendaire qui a pu descendre dans les niveaux les plus profonds de l'Abysse. Alors que la jeune fille explore le gouffre, elle rencontre un robot amnésique qu'elle nomme Legu, qui ressemble à un garçon humain. Tous les deux se lient d'amitié. Un jour, un message de Lisa remonte de l'Abysse invitant sa fille à la retrouver au fond du gouffre. Riko dit adieu à ses amis et entreprend avec Legu le voyage à travers l'Abysse pour retrouver sa mère, malgré les risques, son inexpérience et sa fragilité. En effet, son corps fragile ne pouvant a priori pas supporter le contre-coup de la remontée. Elle ne pourra probablement plus jamais revenir à la surface. Au premier abord, l'œuvre semble nous emmener dans une exploration légère et enfantine d'un environnement enchanteur. Mais ne vous y trompez pas. Au fur et à mesure que nos deux jeunes héros descendent plus profond dans l'Abysse, l'environnement se fait de plus en plus trompeur et terrifiant. Jusqu'au point où on ne se demande plus si le danger va surgir, mais plutôt quand et comment, installant une tension permanente. La dure réalité des dangers toujours plus grands et des mystères toujours plus épais de l'Abysse vont petit à petit mettre à mal l'innocence de la joyeuse Riko qui malgré tout n'abandonne jamais son objectif, retrouver sa mère. Le récit nous embarque dans une aventure à la fois enchanteresse et effrayante, entre rêve et cauchemar. L'ambiance et les décors de cette œuvre me font beaucoup penser aux films d'animation de Miyazaki et en particulier à Nausicaa de la Vallée du Vent, pour ceux qui connaissent. Ensuite, parlons de l'animation et du dessin. Dans son adaptation, le studio Kinema Citrus a fait, selon moi en tout cas, un sans faute. L'animation frôle la perfection et les décors enchanteurs fourmillent de détails. Là encore, cela rappelle le travail de Miyazaki. Il faut aussi noter l'étrange chara-design enfantin des personnages avec des petits corps et des têtes immenses qui pourraient au premier abord en perturber certains. Mais ce design fonctionne par son contraste avec l'environnement et les événements dangereux et terrifiants auxquels sont confrontés nos personnages. C'est l'innocence qui se heurte au danger et à la réalité. Ce qui m'amène à vous parler du fond du propos. L'innocence et la naïveté de Riko, confrontée à un monde parfois terrifiant, l'amène à mûrir tout en sachant garder une curiosité et un sens de l'émerveillement. Pour moi, cette histoire est comme une allégorie du passage de l'enfance à l'âge adulte. Voilà, Made in Abyss est pour moi un récit initiatique très réussi, que ce soit pour l'adaptation animée ou le manga papier. qui méritent tous deux d'être découverts. Une dernière chose à souligner, le manga a beau être un seinen, c'est-à-dire un manga mature, l'anime est pour moi tout public et se prête bien. L'anime est pour moi tout public et se prête bien à une découverte en famille. Un petit rappel pour ceux qui auraient raté le début, je parlais du manga Made in Abyss, écrit et dessiné par Akihito Tsukiyoshi, publié en France par Ototo et de son adaptation en animé par le studio Kinema Citrus, disponible sur la plateforme de streaming manga Wakanim. C'était l'Otaku Otake, la chronique manga de Divergence FM. Bonne lecture et à la semaine prochaine pour une autre découverte.
Un regard sans haine.
Bientôt vous goûterez l'amertume de ma haine avec la perte d'un être qui vous est cher.
Otaku Otake, la chronique manga sur Divergence FM.
En fait, otaku, c'est surtout pour désigner celui qui ne se consacre qu'à sa passion, voire un maniaque.
Rock, t'as pas intérêt à me briser les ovaires avec tes conneries de col blanc, d'accord? Tu vois pas que j'ai besoin de me concentrer, là? Yeah, yeah, yeah.